ministre des Outre-mer, ministre des Armées et maintenant Premier ministre, Sébastien Lecornu, qui a participé à tous les gouvernements depuis 2017, a été nommé cette nuit à Matignon. La gauche ne décolère pas, le Rassemblement national reste circonspect. Réaction à suivre dans le journal, y compris en Nouvelle-Calédonie, où Sébastien Lecornu est venu à plusieurs reprises. Sur le territoire, Assemblée générale extraordinaire en cours à la CCI. Elle fait suite aux affaires judiciaires de son président. C'est aussi la semaine de l'action contre l'illettrisme. Les acteurs concernés se sont réunis en collectif. Nous en parlerons avec Lydie Van Peperstraat et Aurore Delval, membres de ce collectif. En sport, 2-2 pour la France dans les qualifs à la Coupe du Monde. Les Bleus sont venus à bout difficilement de l'Islande ce matin après leur victoire ce week-end contre l'Ukraine. Et puis Pierre Ferbanque part bientôt pour les championnats du monde en e-sport. À 54 ans, il espère bien conserver ses titres sur le 400 et le 800 mètres fauteuil. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Pas de vacances de poste à Matignon. Renversé hier par un vote de défiance, François Bayrou est déjà remplacé et le nouveau Premier ministre désigné par Emmanuel Macron s'appelle Sébastien Lecornu. Âgé de 39 ans, Sébastien Lecornu a été de tous les gouvernements depuis 2017. Les Calédoniens le connaissent bien puisqu'il a notamment été ministre des Outre-mer de juillet 2020 à mai 2022. Avant de devenir ministre des Armées, il est venu régulièrement sur le territoire durant la crise Covid, mais aussi après les violences insurrectionnelles. Nous y reviendrons dans un instant. Emmanuel Macron avait donc promis une nomination rapide, elle l'a été, et ce n'est pas une surprise, tant le nom de Sébastien Lecornu avait déjà plusieurs fois circulé, y compris au moment des nominations de Gabriel Attal, Michel Barnier ou encore François Bayrou. C'est donc un fidèle du président de la République qui devient Premier ministre, Alexandre Chauveau pour Europe 1.
Devenu fidèle d'Emmanuel Macron au fil des ans, car au départ c'est un proche de Bruno Le Maire, de Gérald Darmanin et d'Édouard Philippe. Venu des Républicains donc, il rejoint le chef de l'État dès 2017, devient ministre la même année et ne quittera plus le gouvernement. À 39 ans, il s'est distingué par son action à la tête des armées où il exerce depuis 2022. C'est notamment lui qui a fait voter la loi de programmation militaire qui prévoit 413 milliards d'euros pour la défense jusqu'en 2030. Décrit comme politiquement habile et à l'écoute des députés, le successeur de François Bayrou devra composer avec les mêmes contraintes que ses prédécesseurs. Pas de majorité et une menace de censure permanente. Il devrait tenter de gouverner avec le centre et la droite. Et s'il entretenait jusqu'ici de plutôt bonnes relations avec Marine Le Pen, celle-ci ne semble pas réellement disposée à lui laisser beaucoup de marge de manœuvre. Le président tire la dernière cartouche du macronisme, a réagi ce soir la présidente des députés RN, qui n'en démord pas. Après les inéluctables futures élections législatives, écrit-elle, le Premier ministre s'appellera Jordan Bardella.
Sébastien Lecornu a réagi sur X à sa nomination. Il remercie Emmanuel Macron pour sa confiance. Le président de la République m'a confié la tâche de construire un gouvernement avec une direction claire, la défense de notre indépendance et de notre puissance, le service des Français et la stabilité politique et institutionnelle pour l'unité du pays, écrit-il. La passation de pouvoir à Matignon entre François Bayrou et Sébastien Lecornu aura lieu ce soir à 21h, heure de Nouméa. Ensuite, le nouveau Premier ministre va consulter les forces politiques du Parlement et ce n'est qu'à l'issue de ces consultations qu'il constituera son équipe gouvernementale. Une équipe dans laquelle ne devrait pas figurer de socialistes. Ils sont en effet furieux que ce ne soit pas un des leurs qui soit à Matignon. Alexis de La Fontaine.
Une gifle, le dégoût, une douche froide, les qualificatifs ne manquent pas au Parti Socialiste pour exprimer leur déception. Olivier Faure, le premier, lui qui se voyait à Matignon, signe un communiqué très hostile envers Emmanuel Macron et Sébastien Lecornu. Aucun socialiste ne participera à ce gouvernement qui conduira à l'échec, au désordre et à la crise de confiance et de stabilité, assure le premier secrétaire, très amer de cette nomination. Olivier Faure menace même le président d'aller jusqu'au blocage institutionnel du pays si Sébastien Lecornu ne cède pas à ses revendications. Mais en interne, une partie de socialistes plaide pour tendre la main au nouveau Premier ministre et participer aux négociations. Si on refuse, il se tournera vers le Rassemblement national et ce sera pire, analyse un député. Nous devons montrer que nous restons un parti de gouvernement, contrairement à la France insoumise qui souhaite le chaos, conclut Patrick Kanner, le patron des sénateurs socialistes.
Sébastien Lecornu connaît donc très bien la Nouvelle-Calédonie où il est venu à plusieurs reprises ces dernières années. Il a notamment, Elisabeth Noir, suivi de très près le processus référendaire.
Il est nommé ministre des Outre-mer en juillet 2020 et son premier déplacement a lieu en octobre, quelques semaines après le deuxième référendum qui a eu lieu, souvenez-vous-en, le 4 octobre. On est en pleine crise Covid en métropole et Sébastien Lecornu passera 14 jours à l'isolement après son arrivée le 24 octobre en Nouvelle-Calédonie. C'est lors de ce premier déplacement qu'il organise le groupe Le Prédour, en réunissant de façon impromptue 10 responsables politiques, 5 partisans de la France et 5 indépendantistes sur l'îlot Le Prédour pour renouer le dialogue. Il organisera ensuite une rencontre à Paris en juin 2021. Il s'agit notamment de fixer la date du troisième référendum et il est alors décidé que, quel que soit le résultat du référendum du 12 décembre 2021, il sera suivi d'une période de transition de 18 mois avant un référendum de projet fixé à juin 2023, un calendrier qui ne sera pas tenu. Sébastien Lecornu revient une deuxième fois en octobre 2021, deux mois avant le troisième et dernier référendum, pour encore une fois poursuivre le dialogue. Mais la Calédonie est rattrapée par le Covid et les indépendantistes réclament le report du troisième référendum. Le ministre des Outre-mer maintient la date du 12 décembre parce qu'en démocratie, dit-il, les élections se tiennent à l'heure dite. Et Sébastien Lecornu arrive sur le territoire le 10 décembre. Il sera ainsi présent pendant le déroulement du troisième référendum, mais même s'il reste à l'isolement pendant 5 jours au Haut-Commissariat. En mai 2022, Sébastien Lecornu devient ministre des Armées et c'est sous cette casquette qu'il effectuera un nouveau déplacement en Nouvelle-Calédonie en décembre 2023 pour un sommet des ministres de la Défense du Pacifique Sud. Il reviendra également sur le territoire en mai 2024 quand il accompagnera le président de la République et le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin quelques jours après le début des violences insurrectionnelles. Sébastien Lecornu connaît donc bien la Nouvelle-Calédonie. C'est ce que relève notamment le député Nicolas Metzdorf, qui se réjouit bien sûr de sa nomination.
C'est une excellente nouvelle. Sébastien Lecornu, il n'y avait pas meilleur choix, je crois, pour la France et pour la Nouvelle-Calédonie en particulier. C'est peu dire qu'il connaît bien la Nouvelle-Calédonie. Il la connaît en détail, il connaît les acteurs, il connaît le dossier. Il a toujours continué à le suivre. C'est vraiment une très très bonne nouvelle, très satisfait, très heureux que le président ait fait ce choix et qu'il l'ait fait rapidement parce que le calendrier législatif de l'accord de Duval va pouvoir se poursuivre dans les temps. Et donc c'est vraiment une excellente chose. J'avais dit que les indépendantistes les plus radicaux de la CCAT se réjouissaient un peu trop vite de la chute de François Bayrou parce que derrière ça serait Sébastien Lecornu. Et voilà, c'est fait. Donc maintenant on va voir comment il va prendre le dossier. Ça sera certainement aussi une autre dimension parce qu'auparavant il était ministre des Outre-mer, maintenant il est Premier ministre. On peut considérer aujourd'hui même que le dossier calédonien risque de repasser un petit peu à Matignon.
Satisfaction également pour Sonia Backès, la présidente de la province sud et chef de file des loyalistes dans les discussions sur l'avenir institutionnel. Elle connaît très bien Sébastien Lecornu. Ils ont notamment siégé ensemble dans le gouvernement d'Elisabeth Borne. Sonia Backès salue sa nomination et affirme que la mise en œuvre de l'accord de Bougival va forcément se poursuivre.
Je pense que c'est une bonne nouvelle pour la France. Je pense qu'il y a la capacité à trouver des équilibres par la négociation, qui est sans doute le meilleur à avoir. Et puis pour la Nouvelle-Calédonie, l'avantage, c'est qu'il sait exactement tout ce qu'il en est, puisqu'il a participé à toutes les séquences et que personne ne peut lui re-raconter l'histoire. Donc on va à la fois gagner du temps et avoir quelqu'un qui est très respectueux de chacun et qui sait exactement ce que chacun représente et souhaite. Je pense qu'il fait partie de ceux qui continueront le processus qui a été engagé et qui soutiennent l'accord qui a été signé et qui participeront à sa poursuite et en même temps au maintien du dialogue avec ceux du FLNKS qui veulent le maintenir.
Et puis réaction également en Nouvelle-Calédonie de Virginie Ruffnacht, le chef du groupe du Rassemblement au Congrès de la Nouvelle-Calédonie.
C'est plutôt une bonne chose pour la Nouvelle-Calédonie parce que Sébastien Lecornu connaît très très bien le sujet calédonien, parce que c'est un ministre qui a du poids, qui faisait partie des ministres d'État et qui avait en charge celui du ministère des Armées. J'espère maintenant que ce ministre que nous connaissons bien et encore une fois que je félicite de sa nomination s'engagera pleinement dans la mise en œuvre de l'accord de Bougival. Je rappelle que cela faisait 27 ans qu'il n'y avait pas de signature d'accord entre l'ensemble des parties prenantes de la Nouvelle-Calédonie et que cet accord suscite beaucoup d'espoir chez les Calédoniens qui ont besoin plus que jamais que leur horizon soit dégagé et avec de la visibilité sur leur avenir. En dehors de cet accord, il n'y a pas de visibilité possible et c'est la raison pour laquelle nous comptons vivement sur ce nouveau gouvernement, désormais dirigé par Sébastien Lecornu en tant que Premier ministre, pour mettre en œuvre ce processus de Bougival qui est important pour l'ensemble des Calédoniens et notamment le monde économique.
Voilà pour ces premières réactions en Nouvelle-Calédonie. Côté indépendantiste, le bureau politique du FLNKS se réunit aujourd'hui. Il devrait a priori réagir à la nomination de Sébastien Lecornu à l'issue de ce BP.
Sébastien Lecornu qui est donc venu en Calédonie à plusieurs reprises et que nous avons reçu dans ses studios à de nombreuses occasions.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure de votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Voici notre question du jour. Êtes-vous satisfait de la nomination de Sébastien Lecornu comme Premier ministre pour succéder à François Bayrou ? Si vous êtes satisfait, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. La réponse à la question d'hier, à l'unanimité, les auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS pensent que Juliette Collet, qui a été élue Miss Nouvelle-Calédonie 2025, est une belle image pour représenter la Nouvelle-Calédonie au concours Miss France. Revenons à l'actualité en métropole. À peine installé à Matignon, Sébastien Lecornu va devoir faire face à une crise lancée par l'ultra-gauche qui veut mettre en œuvre la nuit prochaine pour nous son opération « Bloquons tout », à laquelle plusieurs syndicats se sont associés. Blocage sur les routes, dans les transports, pic et grève devant certaines sociétés. Les autorités craignent aussi des débordements. 80 000 policiers et gendarmes seront déployés sur tout le territoire métropolitain. Ils ont reçu des consignes claires, a expliqué le porte-parole de la gendarmerie, Erwan Coiffard.
Il s'agit d'empêcher les blocages des sites essentiels au fonctionnement du pays, également d'empêcher tout ce qui est atteinte aux biens et aux personnes. Donc c'est réellement dans la dissociation que l'effort sera porté afin de permettre tant à la liberté d'expression de se manifester qu'également être en capacité d'empêcher ces blocages. C'est un dispositif qui est robuste, qui est conséquent, qui se veut adapté aux circonstances. Ce sont près de 40 000 gendarmes qui sont mobilisés. Donc pour rentrer dans le détail, des moyens humains, ce sont près de 36 000 gendarmes départementaux qui vont être présents sur le territoire. Ils seront renforcés de 1400 réservistes opérationnels, puisque nous faisons également appel à la réserve. Et ce sont 30 escadrons de gendarmerie mobile, donc à peu près 2100 gendarmes qui seront déployés également. À cela vient s'ajouter des moyens spéciaux, 25 centaures, les véhicules d'intervention polyvalents de la gendarmerie, et également des hélicoptères, 26.
Consulter les forces politiques, constituer son gouvernement, puis s'attaquer au budget 2026. C'est donc ce qui va attendre Sébastien Lecornu. Le projet de loi de finances doit être présenté au plus tard à la mi-octobre pour un vote qui doit intervenir avant le 1er janvier prochain. Une course contre la montre dans un contexte ultra compliqué. La crise politique et l'éviction de François Bayrou pourraient causer un bond du déficit public qui pourrait dépasser les 6% du PIB. Barthélémy Philippe.
La France croyait avoir touché le fond en 2024 avec un déficit de 5,8% du PIB. Mais après la chute du gouvernement Bayrou, l'équation budgétaire semble impossible et en l'absence d'économie dans le prochain budget, le déficit devrait à nouveau s'envoler. Selon Bercy, il atteindrait 6,1% du PIB fin 2026, soit 185 milliards d'euros. En l'absence de correction budgétaire, la dépense publique augmenterait de 50 milliards d'euros. L'ensemble des prestations sociales dont les retraites seraient indexées sur l'inflation et les dépenses de santé continueraient leur progression hors de contrôle. 6,1% du PIB, ce serait un effondrement inédit hors période de crise. Le cap n'a été dépassé qu'en 2010 lors de la crise des dettes en zone euro, ainsi qu'en 2020 lors du Covid. Bien entendu, l'hypothèse soulevée par Bercy compliquerait le retour dans la norme européenne des 3%. Mauvais élève de l'Europe, la France avait obtenu de la Commission un délai jusqu'à 2029 pour se conformer à ses obligations. Elle pourrait ne pas y parvenir.
Un mot de l'actualité à l'étranger. Avant la première pause de ce journal, Israël a mené des frappes aériennes à Doha, la capitale du Qatar. Une action inacceptable selon la communauté internationale. Le raid qui a engagé 11 avions de chasse avait pour but de frapper les dirigeants du Hamas réunis pour étudier les propositions de sortie de conflit à Gaza. Les frappes ont fait 6 morts, mais un responsable du mouvement palestinien assure que les cibles visées n'ont pas été atteintes. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu présente cette attaque comme la riposte à la fusillade perpétrée par deux Palestiniens hier à Jérusalem-Est, au cours duquel 6 citoyens israéliens avaient été tués. Il est 11h44, la première pause de ce journal. Dans un instant, on en vient à l'actualité sur le territoire.
Toute l'info en 3 lettres, RRB.
Chez Lagoon, on fait plus que vous connecter à Internet. On vous accompagne au quotidien. Que ce soit pour vos loisirs, le télétravail ou rester en contact avec vos proches, on est là, tout simplement. Rejoignez-nous et découvrez nos offres sur www.lagoon.nc.
Lagoon, Internet, passionnément.
Le carnaval de Nouméa fait son grand retour le samedi 13 septembre pour une 36e édition placée sous le signe de la nouveauté.
Rendez-vous cette année à la baie de Sainte-Marie avec un départ du défilé à 18h au niveau du rond-point d'Enguer. Les chars défileront sous vos yeux jusqu'au parc urbain de Sainte-Marie.
Au programme, des animations gratuites dès 16h tout au long du parcours et au parc urbain. Ambiance musicale, stand de restauration, spectacle de magie, manège.
Le carnaval de Nouméa, c'est ce samedi 13 septembre, baie de Sainte-Marie. Toutes les infos sur nouméa.nc ou sur la page Facebook Nouméa ma ville.
Ville de Nouméa, partageons l'événement.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
L'actualité en Nouvelle-Calédonie est d'abord cette information pratique pour les automobilistes. La circulation est actuellement alternée au Mont d'Or sur la RP1 en raison de la chute accidentelle d'un arbre à proximité du pont de la Tille. Les opérations de déblaiement sont toujours en cours. L'arbre est tombé sur une ligne électrique et les équipes d'Enercal sont également mobilisées. Les automobilistes sont invités à prendre leur mal en patience ou bien à éviter cet axe routier jusqu'à la fin des opérations. La CCI réunissait une assemblée générale extraordinaire ce matin. Les élus se retrouvaient à la demande de la liste battue lors des dernières élections à la suite des affaires judiciaires concernant son président, Mika Dunesky.
Oui, vous le savez, David Guyenne qui doit répondre de fait devant la justice concernant ses affaires personnelles. La question était de savoir comment doivent s'organiser les instances de la Chambre de commerce et d'industrie. C'était l'objet du vote de confiance organisé ce matin. Seule une assemblée générale extraordinaire était compétente pour soumettre cette question aux élus. Et la majorité des élus ont donc aujourd'hui renouvelé leur confiance au président. La réaction de Laurent Jandot qui menait la liste d'opposition Alliance pour la relance.
La majorité des élus ont souhaité maintenir le président en exercice dans ses fonctions. Donc ils lui ont renouvelé sa confiance, bien malgré les problèmes judiciaires qu'il a rencontrés, les malheureux problèmes qu'il a rencontrés récemment. Donc nous prenons acte de cette décision et continuons à nous engager dans le respect de la Chambre de commerce et d'industrie.
Dans quel climat se sont déroulés les débats du jour ?
C'est pas un moment agréable. Chacun a pu s'exprimer et donner son avis. La priorité de la Chambre reste de toute façon vers la reconstruction et vers l'assistance aux entreprises. Donc ça, évidemment, ça restera la priorité absolue.
Laurent Jandot qui menait donc la liste d'opposition Alliance pour la relance à la CCI. On rappelle que Stéphane Yoto assurait la présidence par intérim de la Chambre de commerce et d'industrie en attendant cette assemblée générale extraordinaire. Des décisions à la tête de la CCI qui devaient se prendre dans un moment crucial alors que l'équipe dirigeante et l'ensemble des acteurs de la CCI doivent continuer de trouver des solutions pour faire face aux impacts de la crise de 2024 touchant l'ensemble du monde économique.
Justice, le verdict est attendu ce soir dans la première affaire de la troisième session d'assises de l'année. Un homme de 44 ans est accusé du meurtre de son voisin par arme blanche. Ça s'est passé dans la nuit du 21 mai 2021 à Ducos. Son interrogatoire a marqué la dernière matinée de son procès ce matin, Nicolas Legrand.
Oui, vers 10h ce matin, Dariki Goa s'est avancé à la barre. Chemisette kaki sur les épaules, il a raconté les deux épisodes de bagarre qui ont conduit au drame de cette nuit du 21 mai 2021. Cet ancien boxeur décrit les échanges de coups de poing, puis un long silence saisit la salle des assises lorsque le coup mortel avec une arme blanche est évoqué. Devant la famille de la victime, l'huissier lui a remis l'arme du crime, une paire de ciseaux qu'il utilisait pour le travail. Pendant de longues minutes, le président lui a demandé de mimer les gestes qui ont été fatals pour la victime. Un moment pénible, si bien que son avocate se lève, saisit la paire de ciseaux dans les mains de son client et la dépose sur l'armoire des scellés. « C'est dérangeant », lance-t-elle, avant de se faire rappeler à l'ordre par le président. « Je dirige les débats, ça fait partie de l'interrogatoire. Le mime est un moment utile, même si une reconstitution des faits a été menée lors de l'enquête. » L'accusé, lui, semble sonné par la salve de questions du président de la cour d'assises, parfois mis face à ses contradictions. L'accusé finit tout de même par reprendre l'arme du crime, puis s'abaisser pour se mettre dans la position qu'il était lors du dernier échange de coups. L'accusé dit qu'il était dominé physiquement par Émile Finao et qu'il était au-dessus de lui et qu'il avait peur pour sa vie. Il dit alors avoir pris les ciseaux et a envoyé, selon ses mots, marquant chaque coup porté au niveau du corps d'Émile Finao. Le cœur, mais aussi le côlon de la victime sont touchés, provoquant une importante hémorragie conduisant à son décès 2 jours plus tard au Medipôle. Après son geste, l'accusé raconte être rentré chez lui et avoir dit simplement à sa copine qu'il venait de faire une connerie avant d'entendre les sirènes de la police. S'en suivra l'arrestation, puis la garde à vue, 1 an et 2 mois de détention provisoire, puis le contrôle judiciaire pour lequel il est placé jusqu'à ce procès. L'audience va encore se poursuivre cet après-midi avec les plaidoiries et les réquisitions d'Yves Dupas. Le verdict, lui, est attendu ce soir. Dariki Goa encourt 30 ans de réclusion criminelle s'il est reconnu coupable de meurtre. Son avocate plaidera à des coups mortels, c'est-à-dire sans intention de donner la mort. Et dans un tel cas, le quantum de la peine encourue est divisé par 2, soit 15 ans de réclusion criminelle. Au tribunal de Nouméa, Nicolas Legrand, RRB.
Infomag, il est 11h50.
Dans l'actualité militaire, l'engouement des jeunes Calédoniens pour s'engager dans l'armée. Lundi prochain, une jeune Calédonienne recrutée par le bureau R du CIRFA de Nouméa signera à la base aérienne 186, le lieutenant Paul Klein, son contrat d'engagement dans l'armée de l'air et de l'espace. Il s'agira du 100e contrat signé depuis le début de l'année par l'armée de l'air et de l'espace. Écoutez le colonel Alban Jean Grandpierre, c'est le commandant de la base aérienne.
Traditionnellement, ce chiffre est plutôt atteint en fin d'année. Nous avons un engagement et une jeunesse qui veut s'engager cette année de façon massive. Et c'est pour ça que avoir un 100e contrat au mois de septembre est quelque chose d'assez extraordinaire. Notre jeune engagé, la 100e, s'engage en tant que sous-officier comptable. C'est des spécialités qui peuvent paraître très sédentaires, mais à chaque fois qu'une unité, que des militaires se déplacent, on va avoir besoin de cuisiniers, on va avoir besoin de comptables, de tout le soutien qui va avec. Cette jeune recrue donc va être accueillie par les équipes de l'armée d'air et l'espace pour passer une journée sur Paris, avant de prendre le train direction Rochefort, l'école des sous-officiers de l'armée de l'air et l'espace. Je suis à chaque fois admiratif devant le courage de ces jeunes qui partent à 18 000 km de chez eux, qui passent par la base aérienne en début d'après-midi, qui décollent pendant la nuit pour rejoindre la métropole.
Et d'ici la fin de l'année, une quarantaine de jeunes Calédoniens pourraient encore concrétiser leur engagement dans l'armée de l'air et de l'espace. 2024 a marqué une chute historique de la fréquentation touristique qui a été la plus basse depuis 30 ans. Depuis le retour au calme sur le territoire, NCT Nouvelle-Calédonie Tourisme communique pour faire revenir les touristes en Calédonie et relancer le secteur, Lionel.
Et nous allons vous parler ce matin à 7h30 avec Julie Laronde, la directrice générale de Nouvelle-Calédonie Tourisme. Un peu plus d'un an après les émeutes insurrectionnelles, la relance est toutefois amorcée, même si elle reste timide et le taux de reconquête des touristes progresse avec un marché, notamment sur la métropole, qui tire les chiffres vers le haut. Julie Laronde.
Les flux et la reprise est essentiellement porté effectivement par la métropole, puisqu'à fin juillet, on est en recul de moins 45% par rapport à 2023. Puis l'Australie. L'Australie, on est quand même en recul de moins 67%, mais de mois en mois, ça progresse. La Nouvelle-Zélande, pas encore, puisque le niveau d'alerte a été abaissé que début juillet et nous, on a commencé à déployer des actions que depuis cette période. Ce niveau d'abaissement d'alerte était un prérequis pour pouvoir déployer des campagnes de communication, sinon ça aurait été contre-productif.
Vous en êtes où sur le marché des croisiéristes ?
À fin juillet, nous sommes à moins 22%. On est en recul de 22% par rapport à la fréquentation de croisiéristes 2023. Donc c'est moins marqué que les touristes. Les deux escales ouvertes, c'est Nouméa et Lifou, et ça a repris un petit peu plus tôt, puisque en octobre 2024, les croisières ont repris progressivement. Toutefois, on est en nombre d'escales beaucoup moins. Le nombre d'escales est beaucoup moins important qu'avant.
Et pour relancer le tourisme, NCT lance toute une série de campagnes de communication, mais aussi une série de réunions avec les acteurs concernés. Il s'agit en fait de remobiliser les acteurs locaux et de co-construire une feuille de route pour relancer l'attractivité et l'image de la destination Nouvelle-Calédonie.
Une première réunion a lieu cet après-midi et c'est le début d'une série de réunions pour remobiliser en fait, pour collecter les attentes, les besoins, les difficultés des opérateurs touristiques aussi, puisque depuis 5 ans, le secteur est largement impacté avec les différentes crises. Et l'objectif de cette série de rencontres, c'est vraiment définir des leviers prioritaires d'action et avoir une feuille de route claire, commune et partagée pour les 3 ou 5 prochaines années.
Julie Laronde, la directrice générale de Nouvelle-Calédonie Tourisme, invitée du matin sur Radio Rythme Bleu. Interview que vous retrouvez en podcast audio et vidéo sur notre site internet, le www.rrb.nc.
Il est 11h53. Nous sommes en ce moment au cœur des journées nationales d'action contre l'illettrisme. À cette occasion, un collectif contre l'illettrisme, c'est un collectif illettrisme, pardon, s'est créé. On va en parler dans un instant avec nos deux invités.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance!
Préservez votre habitation contre les termites avec Formula 4D.
Traitement de charpente, pièges préventifs et barrières chimiques.
Déductible de vos impôts. Infos sur formula4d.com.
À vos côtés depuis 40 ans.
Entreprise, cabinet juridique, collectivité, vous souhaitez être lu, être vu, confiez vos annonces légales au site internet rrb.nc. Contact annonce-légale@rrb.nc ou au 25 46 46.
Accueil détendu, équipe dynamique, toujours un sourire au Bilboquet Plage.
En tête-à-tête ou avec des amis, toujours de la place au Bilboquet Plage.
De la simple salade au saumon fumé, toujours un grand choix au Bilboquet Plage.
Du soleil de midi aux 12 coups de minuit, toujours nous servons au Bilboquet Plage.
Au Palm Beach à Lanzvata, face aux îlots, Bilboquet Plage, un plus pour le week-end. Toute l'info en trois lettres, RRB.
La suite d'Infomag, on retrouve Jean-François Baudin.
Nous sommes dans la semaine consacrée aux journées nationales d'action contre l'illettrisme. Et à cette occasion, un collectif illettrisme a vu le jour en Nouvelle-Calédonie. Il n'est pas vraiment nouveau, on va en parler avec les deux invités qui sont avec nous sur ce plateau. Lydie Van Peperstraat, qui est la coordinatrice du RIF, et Aurore Delval, qui est chef de projet à l'IFAP et qui sont toutes les deux membres du collectif. Bonjour.
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 Merci d'avoir accepté notre invitation. Très rapidement, Lydie Van Peperstraat, qui compose ce collectif? Quels sont les acteurs concernés aujourd'hui par la lutte contre l'illettrisme en Nouvelle-Calédonie?
Donc le collectif, en fait, là, on s'est organisé avec un comité de pilotage dont sont membres, du coup, le FIAF. Le FIAF organise donc collecteur hein, pour la formation des salariés. L'IFAP, ici présente, le GIEP, NC, l'école de la réussite, le vice-rectorat, que je n'oublie personne, et puis la Croix-Rouge, l'association La Croix-Rouge, et nous, donc, le RIF appartenant à la DTEFP du gouvernement.
Alors, c'est une nouvelle structure, hein, ce collectif illettrisme. Pourquoi l'avoir lancé maintenant ?
Alors, plus qu'une nouvelle structure, c'est une nouvelle structuration. C'est vrai qu'il est né de l'organisation, initialement, des journées nationales d'action de lutte contre l'illettrisme, donc qui sont, depuis 2019, relayées sur le territoire. Et donc, ce collectif s'est créé de manière informelle au départ pour coordonner cette semaine d'action annuelle. Là, l'importance aujourd'hui, c'était de pouvoir structurer ce collectif pour le rendre pérenne et surtout d'avoir une action toute l'année en dehors de ces événementiels.
On va bien sûr y revenir hein, sur les actions que vous entendez mettre en œuvre pour lutter contre ce qu'on peut appeler un fléau. Aurore Delval, c'est vraiment l'illettrisme, quelque chose de très difficile pour les personnes qui le subissent. C'est vraiment un handicap social, on peut dire ça ?
Oui, c'est-à-dire que les personnes en situation d'illettrisme sont d'abord dans la honte. Donc la première chose, c'est qu'elles vont cacher leur situation d'illettrisme et elles vivent au quotidien un cumulé d'obstacles d'accès à l'information, d'accès à leurs droits civiques, parce qu'elles ne peuvent pas déposer un dossier de demande de bourse, etc. Elles sont dépendantes pour tout un tas de choses, depuis passer le permis de conduire jusqu'à soutenir les enfants dans leur scolarité, etc. Donc oui, c'est une forme de handicap social.
Est-ce qu'on sait aujourd'hui combien de personnes en Calédonie ont des difficultés avec la lecture et n'arrivent pas à lire ou ne savent pas lire ?
Alors, on a un chiffre qui date de 2013 avec l'enquête faite par l'ISEE et avec une enquête qui s'appelle Information vie quotidienne. Le taux d'illettrisme en 2013 était estimé à 18% de la population qui a fini sa scolarité jusqu'à 65 ans. On n'a pas de données plus récentes. On ne peut pas dire si le taux a baissé ou augmenté. Réellement des personnes en difficulté, on sait qu'il y en a au moins ce chiffre-là. Il faut aussi prendre en compte le fait qu'aujourd'hui, de plus en plus de démarches administratives, de services à l'usager se font via les applications numériques, via des services numériques. On parle alors d'électronisme quand la personne n'est pas autonome sur ses services numériques. Et on peut aussi inclure ces personnes-là dans le tout. De personnes non autonomes dans les situations de la vie quotidienne.
Alors Lydie Van Peperstraat, il y a un certain nombre d'organismes déjà, vous l'avez rappelé, qui travaillent d'une façon ou d'une autre pour lutter contre l'illettrisme. L'idée de ce collectif, c'est vraiment de les rassembler tout ensemble pour essayer d'avoir des actions communes, avoir une stratégie véritablement de lutte contre l'illettrisme en Calédonie.
Exactement. Notre philosophie, c'est vraiment pas d'opposer les acteurs et de chercher de pointer des coupables, c'est justement de capitaliser sur les expériences et les dispositifs qui fonctionnent des autres, et puis qu'il y ait un continuum. C'est vrai que depuis la scolarité jusqu'à l'emploi. en fait, entre tous les acteurs.
Alors, qu'est-ce que vous allez mettre en œuvre ? Parce que vous l'avez dit, il y a ces journées nationales d'action contre l'illettrisme qui existent depuis de nombreuses années, qui sont relayées en Nouvelle-Calédonie. Mais vous, ce que vous souhaitez, c'est le but du collectif, c'est d'inscrire votre action dans le temps, c'est-à-dire ne pas faire simplement un coup d'annonce, entre guillemets, ou des événements un petit peu spectaculaires pendant une semaine et puis oublier le reste de la lutte contre l'illettrisme. C'est bien ça. Et par quelles actions ça va passer ?
Complètement. Donc c'est vrai qu'on voit l'émulation et puis l'énergie des différents acteurs pour préparer cette semaine-là. C'est vraiment un coup d'éclairage sur cette situation et ces problèmes. Et on arrive, l'espace d'une semaine, à vraiment faire avancer la sensibilisation, changer le regard des personnes en situation d'illettrisme. Et au-delà de ça, pour le rendre pérenne, on a décidé de structurer un comité de pilotage, justement d'avoir une gouvernance aussi qui puisse être appuyée par le politique. Parce que rendre les choses visibles, c'est aussi pouvoir prendre des décisions. Et puis surtout aussi avoir une cartographie des acteurs plus claire pour qu'on puisse chacun à nos niveaux affirmer nos engagements, qu'on soit actif, sympathisant ou au contraire, ou juste en diffusion de l'information, chacun a son rôle à jouer.
Ouais, chacun peut se compléter.
Exactement.
La question aussi, Aurore Delval, c'est qu'il faut que les personnes en situation d'illettrisme soient repérées, entre guillemets, parce que j'imagine que ce n'est pas simple pour une personne qui est dans cette situation de frapper à une porte, d'aller voir quelqu'un en disant bah, « aidez-moi parce qu'aujourd'hui je suis vraiment perdu ». Il faut aussi accentuer ce côté détection.
Oui, tout à fait. Alors, la détection, elle se fait déjà parce qu'on est tous sensibilisés à ce qu'est l'illettrisme, non pas comme une fatalité. Donc, il y a de la sensibilisation à faire. Il y a de la formation au repérage et à l'identification. Et donc, dans les actions pérennes qu'on va porter sur toute l'année, c'est former de plus en plus de personnes au repérage. Alors, repérer, oui, mais pourquoi faire derrière ? C'est avoir des actions de formation. Et c'est là où on a besoin de soutien, d'une mobilisation forte, c'est-à-dire qu'accompagner quelqu'un qui dit « je reconnais que je suis en situation, je suis en difficulté, j'ai besoin de soutien ». Derrière, c'est une formation, c'est un accompagnement dans la durée qui passe par la reprise de confiance en soi. Et qui se fait pas en 3 mois, donc c'est des années.
C'est un long parcours.
C'est pas des années pour réapprendre, mais c'est des années sans savoir, et c'est des mois pour réapprendre.
En attendant, Lydie Van Pepperstraat, quelles sont les actions mises en œuvre pour ces journées nationales d'action contre l'illettrisme qui ont quand même lieu avant que le collectif ne poursuive ses actions dans le temps ? Est-ce qu'il y a des temps forts encore qui sont importants pour vous ?
Oui, alors en plus les acteurs sont très variés et les propositions d'action sont très variées. Donc elles ont débuté lundi avec l'action phare du kilomètre de lecture qui a été proposée sur l'Envata et à tout point du territoire. Donc l'idée était de pouvoir lire à voix haute à tout passant ou entre collègues et n'importe qui d'ailleurs sur le territoire. Si vous souhaitez rejoindre cette action, vous pouvez encore la mener chez vous. Tout près de chez vous. On a, pour vous donner des exemples, ce matin, on a du coup l'action à Koumac, médiathèque de Koumac, qui a eu lieu. Cet après-midi, à la FOL, je crois qu'il y a un escape game sur l'illettrisme. Demain, au JIEP, il va y avoir un compteur qui va participer justement à une action avec les stagiaires en cours de formation SPOT.
Toute la semaine, il y a des expositions, notamment à la bibliothèque Bernheim, ici à Nouméa, sur un travail d'écriture qui a été fait avec les personnes en situation d'illettrisme accompagnées par les bénévoles de la Croix-Rouge. Donc ça, c'est visible. Parce qu'il y a des actions qui s'inscrivent dans la durée, qui sont visibles tous les jours, et des actions visibles sur une journée.
Voilà, c'est donc en ce moment cette journée, ces journées nationales d'action de lutte contre l'illettrisme, et à cette occasion, la création, en tout cas la structuration de ce comité illettrisme en Nouvelle-Calédonie. Merci à toutes les deux d'être venues nous en parler dans ce journal.
Merci à vous.
Venons-en maintenant à la journée des métiers et de l'orientation qui a eu lieu ce matin au lycée Saint-Pierre-Chanel à La Conception. De 8h30 à 11h, les élèves et leurs parents ont pu rencontrer une quinzaine d'intervenants dans le domaine scolaire et professionnel, Léo Fichou.
Oui, une matinée qui a pour objectif d'ouvrir le champ des possibles aux élèves de terminale, de BTS, mais aussi de FCIL, formation complémentaire d'initiative locale. Permettre à ces jeunes de découvrir une grande diversité de métiers, parfois en lien avec leur parcours actuel, parfois plus éloigné, et puis favoriser également les échanges avec les professionnels. Écoutez le directeur du lycée Saint-Pierre-Chanel, Pierre-Jean Lung.
On est dans une période où les élèves vont devoir faire un choix pour leurs études post-bac. On est dans la phase Parcoursup. Donc l'idée, c'est bien sûr de les informer, de les mettre aussi du lien avec que ce soit le professionnel, les structures aussi scolaires, de manière à ce que les jeunes, et aussi avec leurs parents, parce que les parents sont aussi invités, puissent prendre le temps de manière à, ensuite à peaufiner leur choix d'orientation. Dans le cas de la réforme des lycées professionnels, à compter de cette année, les élèves ont le choix de faire soit des poursuites d'études, donc on a pratiquement l'ensemble des lycées qui sont présents pour pouvoir informer sur les différentes formations post-bac qu'ils proposent dès 2026. Ou soit aussi directement à l'issue d'un bac pro, parce que c'est un diplôme professionnel, de s'orienter vers un métier. Donc c'est pour ça qu'on a géré des intervenants professionnels qui sont présents aussi pour expliquer un peu leur métier et les différentes formes d'accès à leur métier surtout.
Depuis plusieurs semaines déjà, les élèves préparent cette demi-journée. Ils ont notamment mis en place l'organisation des ateliers et des rencontres, mais ils ont aussi créé des fiches de découverte. Pour Alosia, Yumiko et Cyril, elles serviront à faire le point sur toutes les informations qu'ils ont récupérées durant la matinée.
Je remplis ce qui m'intéresse à propos des formations pour m'aider pour plus tard, vu que je ne sais pas ce que je vais faire. C'est intéressant.
Là, la FCIL, Community Manager, c'est tout ce qui est en rapport avec la communication dans les entreprises et tout. Puis après, on va faire le tour encore. Ça va m'aider à savoir après quelle formation je vais faire ou quel métier je vais faire plus tard. Du coup, ça m'aide beaucoup.
Oui, ça m'intéresse depuis que je commençais en première. J'ai tout le temps voulu continuer mes cours en FCIL, mais c'est bon, j'ai compris maintenant comment ça marche, la formation.
Et parmi les intervenants, Thibaut Genin, RH en charge des cadres de la SLN, il a donné quelques conseils aux élèves, comme par exemple ne pas se contenter du bac, continuer les études, continuer aussi de se former et de monter en compétences.
Et puis cap sur 2026 pour l'école du design qui lance ses journées portes ouvertes ce matin jusqu'à samedi midi. L'école propose différentes formations supérieures à partir d'un niveau bac, la prépa art et design, la formation infographiste designer reconnue en métropole et en Nouvelle-Calédonie, mais aussi le bachelor designer graphique web. Marilyn Mercier est la directrice de l'école du design.
Cette année, on a 30 étudiants. On peut accueillir jusqu'à 50 étudiants à l'école du design. Tous nos formateurs sont des professionnels de ces métiers qui prennent de leur temps pour enseigner à l'école. Il faut savoir que nous, c'est que des compétences professionnelles. Aujourd'hui, mercredi 10 septembre, c'est le lancement de nos journées portes ouvertes. C'est ouvert à tous. C'est gratuit, bien sûr, l'entrée est libre et donc on se fera une joie d'accueillir un large public pour justement échanger avec ses étudiants, avec les formateurs de l'école du design, voir les projets qui sont effectués justement pendant ces années de formation et également répondre à toutes les questions pour pouvoir préparer au mieux la rentrée 2026.
Les portes ouvertes à l'école du design se déroulent donc depuis aujourd'hui. Elles se poursuivent jusqu'à samedi 13 septembre à 13h. Midi 7, il nous reste à voir l'actualité sportive dans un instant et cette victoire difficile ce matin des Bleus de Didier Deschamps face à l'Islande.
RRB, pour être au cœur de l'actualité. Vous rêvez d'espaces de rangement supplémentaires, DCSM vous propose des placards et des dressings sur mesure adaptés à vos besoins.
Venez concevoir votre aménagement avec notre équipe, 5 route de la Baie des Dames à Ducos, 27 74 20 ou sur Facebook.
La ville de Nouméa vous informe de travaux de réfection de la chaussée sur la route du Trianon.
Ces travaux auront lieu de nuit du 18 août au 12 septembre par phase du lundi au jeudi soir de 20h à 5h du matin. Des fermetures partielles seront mises en place au fur et à mesure de l'avancée du chantier entre le magasin Florence et le carrefour de Michel-Ange.
Pendant cette période, la circulation et le stationnement seront interdits dans la zone. Des déviations seront mises en place, mais l'accès pour les riverains et les piétons sera maintenu.
Pour votre sécurité, merci de respecter la signalisation de chantier. Plus d'infos sur nouméa.nc.
Ville de Nouméa, partageons l'événement.
Tout le sport en trois lettres, RRB.
Bon début d'après-midi, la suite d'Infomag avec l'actualité sportive. On retrouve Jean-François Baudin.
Oui, et nous allons donc parler football avec cette deuxième victoire en deux matchs pour l'équipe de France lors des qualifications à la Coupe du Monde, Léo.
Après avoir battu l'Ukraine 2-0, c'était le week-end dernier, les Bleus recevaient l'Islande au Parc des Princes. Le coup d'envoi de la rencontre a été décalé de quelques minutes en accord avec l'UEFA et en raison surtout de l'actualité nationale. Sur le terrain, ce sont les Islandais qui ont ouvert le score dès la 21e minute, mais le capitaine Kylian Mbappé a égalisé sur pénalty juste avant la pause. Son 52e but en 92 sélections. Il dépasse donc au classement des buteurs un certain Thierry Henry. Au retour des vestiaires, l'attaquant du PSG, Bradley Barcola, donne l'avantage aux Bleus. Mais quelques minutes plus tard, Aurélien Tchouaméni est expulsé pour une faute grossière. Ce carton rouge relance la rencontre. Les Islandais pensent même égaliser juste avant la fin du temps réglementaire. Mais le but d'Haraldsson est refusé. La VAR a signalé à l'arbitre une faute lors de l'action précédant le but. Le score restera donc à 2-1 jusqu'au coup de sifflet final pour l'équipe de France. On écoute le second buteur des Bleus, Bradley Barcola.
On veut garder que le score. C'est vrai que ça a été dur tout le match. On est tombé sur une équipe qui jouait très bas, qui nous pressait à la fois, mais qui était aussi très bas. C'était compliqué, mais on a su marquer et on va retenir ça ce soir. Il fallait essayer de jouer plus vite, de faire des attaques rapides, parce que quand on prenait notre temps, ils se remettaient en bloc. C'était compliqué quand on faisait tourner autour. Et c'était ça la consigne, de jouer le plus vite rapidement possible. Et c'est ce qu'on a fait sur le deuxième but et ça a bien marché. Ouais.
Grâce à cette deuxième victoire en deux matchs, l'équipe de France est seule en tête de son groupe de qualification à la Coupe du Monde devant l'Islande, l'Ukraine et l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan qui sera le prochain adversaire des Bleus, ce sera le 10 octobre prochain.
Une bonne nouvelle en motocross, le Calédonien Arnaud Colson est sélectionné en équipe de France. Il participera les 4 et 5 octobre à la 53e Coupe de l'Avenir, une compétition internationale qui aura lieu en Belgique. Arnaud Colson sera au guidon de sa 250 cm3 dans la catégorie MX2 Open. Une belle opportunité pour le Calédonien qui, je le rappelle, a remporté le titre de champion de France MX 250 en juin dernier. Et puis on va terminer avec du para-athlétisme et la Nouvelle-Calédonie sera une nouvelle fois très bien représentée au championnat du monde d'athlétisme handisport.
Une compétition qui aura lieu du 27 septembre au 5 octobre. Ce sera en Inde. 3 Calédoniens porteront les couleurs de l'équipe de France. Félicien Siapo, Vitolio Cavacava et l'éternel, ou presque, Pierre Fairbank. Champion du monde en titre sur le 400 et le 800 mètres fauteuil, il espère une nouvelle fois décrocher l'or.
Bien sûr, l'objectif c'est toujours de gagner, d'être le premier. Au pire, on est deuxième. Mais non, voilà, toujours viser la première place et puis se faire plaisir et faire son mieux. Voilà, de faire comme ce qu'on fait à l'entraînement, mais voire mieux. Donc le travail paye toujours et plus on s'entraîne et plus on a de chances de réussir. C'est vrai que là en ce moment c'est la phase finale, donc avec l'entraîneur Olivier Degnaud et puis les deux autres athlètes, Félicien et Vitolio, ben on s'entraîne, voilà, pour partir à ces championnats du monde, en espérant représenter au mieux la Calédonie et puis l'équipe de France. Voilà, comme d'habitude, on va essayer de faire plaisir à tous ceux qui nous encouragent et aux médias qui nous soutiennent.
Les championnats du monde d'athlétisme en e-sport auront lieu du 27 septembre donc au 5 octobre à New Delhi, en Inde. Je rappelle que 3 para-athlètes calédoniens porteront les couleurs de l'équipe de France. Vous l'avez entendu, Pierre Fairbank, mais aussi Félicien Siapo et Vitolio Cavacava.
Merci beaucoup Léo. Dans un instant, il sera 12h12. C'est la fin de ce journal. Infomag se poursuit jusqu'à 13h avec Thierry. 13h, ce sera l'heure des rappels des principaux titres de l'actualité. Je vous souhaite une belle après-midi.